RMC, Lahaye, l'amour et vous, Brigitte Lahaye.
Eh bien, dans cette deuxième heure, nous sommes toujours bien sûr avec Valérie Colin-Simard, parce qu'il faut continuer à réconcilier le masculin et le féminin. Et puis nous recevrons également Cécilia Duterte pour un roman particulièrement sensuel. En love conseil, je vous expliquerai quel est l'intérêt de dormir ou pas ensemble, faire chambre commune ou chambre séparée. Et puis, bien sûr, vous continuez à réagir au 32-16. Et le fil d'Ariane a fait réagir Michel, qui était esthéticien depuis une quinzaine d'années. Bonjour Michel.
Oui, bonjour Brigitte.
Bonjour. Alors, vous êtes de plus en plus amené à épiler le maillot des hommes.
Oui, alors c'est ce que je disais, ça fait 15 ans que je fais ce métier. Et au début, j'avais quelques hommes parmi une grosse clientèle féminine. Et je me rends compte que au fil des années, et particulièrement ces trois dernières années-là, il y a de plus en plus d'hommes qui viennent se faire épiler. Hein. Et donc, les zones les plus demandées, en général, sont le maillot et le fessier. Et comme je suis un petit peu curieux, je les fais parler et j'essaie de savoir quelles sont leurs motivations. Et on va dire 3 cas sur 5, c'est suite à une demande de leur ami ou de leur femme. Et pour les autres, c'est plus une histoire de bien-être ou d'hygiène.
Oui, donc c'est intéressant parce qu'on voit bien que c'est souvent pour l'autre, donc qu'on vient s'épiler.
Oui, ils viennent en majorité. Enfin, il y en a beaucoup qui viennent pour leur conjoint et en deuxième
conjointe.
Leur conjointe, les deux sont possibles. Hein.
Oui, d'accord. C'est-à-dire que les femmes aussi, elles viennent parce que c'est leur mari qui leur...
Enfin, non, c'est qu'ils sont parfois homosexuels. Donc
voilà, je voulais dire que... D'accord. Les hommes qui viennent, enfin, principalement, a priori, sont des hétéros, bien qu'ils ne parlent pas tous de leur vie sexuelle, hein, bien sûr. Mais on fait pas... En général, ils viennent parce que leur conjoint, leur conjointe leur a demandé de venir...
Alors, ça montre vraiment comment, justement, les comportements dits autrefois féminins n'appartiennent plus du tout seulement aux femmes et comment les comportements dits masculins n'appartiennent plus seulement aux hommes. Donc, c'est vraiment très intéressant de voir que comment... Du coup, ça génère beaucoup de confusion hein, dans les repères. C'est pour ça que je propose ces nouveaux repères d'équilibre de valeur du féminin et du masculin qui n'appartiennent plus seulement aux hommes et aux femmes.
Oui, c'est vrai. Moi, ce que j'ai noté, c'est que les hommes qui viennent se faire épiler n'ont pas du tout l'impression de perdre leur masculinité. Hein.
Bien sûr.
Et le fait que les femmes soient demandeuses pour que leur homme s'épile, c'est la même chose. Elles ne trouvent pas que l'homme devient plus féminin. Il reste masculin, mais c'est une autre approche du corps.
Voilà, ce qui rend heureux, ce qui nous permet de réussir dans la vie, c'est vraiment de trouver l'équilibre entre ces deux facettes de notre être que nous avons tous et toutes.
Oui, tout à fait, oui.
Merci en tout cas d'avoir réagi, Michel. Merci beaucoup.
Merci Michel. À vous, merci Valérie, merci Brigitte. Au revoir.
Au revoir. Et puis on passe au-dessous de l'actu. Vous voulez nous parler de ce mauvais calcul à l'origine des politiques d'austérité.
Oui, c'est vrai que quand j'ai écouté ça ce matin à la radio, j'ai été très en colère.
Ah ouais.
Parce qu'en fait, toute la politique d'austérité est fondée sur des calculs d'éminents économistes sortis d'Harvard. Et en fait, tous ces calculs s'avéreraient faux. Et tout ça à cause d'un tableau Excel un curseur du tableau Excel qui se serait trompé. Et c'est pas n'importe qui, hein. C'est vraiment un prix Nobel d'économie qui l'affirme, Paul Krugman. Et donc, en fait, c'est vraiment intéressant parce que on voit comment aujourd'hui les valeurs du masculin que sont les chiffres il y a vraiment la dictature du masculin, la dictature pour les hommes aussi bien que les femmes, la dictature, les chiffres deviennent le seul monde réel. Et on va tout baser, et c'est vrai dans les entreprises, et c'est vrai parfois même dans nos vies, et parfois même dans nos vies de couple, on va tout fondé sur une réalité uniquement chiffrée, qui est très importante, mais si elle n'est pas équilibrée par la réalité, et la réalité même émotionnelle que vivent les populations ou les couples, on va dans le mur.
Alors je précise justement, Valérie Colin-Simard, dans votre livre « Masculin-féminin, la grande réconciliation » aux éditions Albin Michel, il y a tout un chapitre, mais un long chapitre où vous expliquez un petit peu la crise actuelle. Et franchement, bravo, parce que c'est expliqué toujours pareil avec votre façon de voir le masculin et le féminin. Et alors comme ça, je vais synthétiser pour les auditeurs, mais il faut vraiment le lire pour bien comprendre. En fait, vous partez du principe que le roi ou le chef d'État, le président, enfin qu'importe celui qui gouverne, c'est la valeur masculine et l'argent c'est du liquide et donc c'est la valeur féminine. Et quand il n'y a pas cet équilibre justement entre le président et l'argent, eh bien c'est pour ça qu'on est actuellement en crise. Et le problème actuel, c'est que finalement, enfin c'est ce que vous écrivez de manière tout à fait intéressante, c'est que actuellement au fond c'est les banques privées qui ont le pouvoir et qui donc influent ce qu'elles veulent sur un président qui au fond est assez impuissant, même s'il a déclaré la guerre aux banques. Alors voilà.
Oui, les États sont complètement impuissants puisque ce sont les banques aujourd'hui. Peu de gens le savent. Ce sont les banques qui aujourd'hui créent la monnaie. La fameuse planche à billets qui entre dans mémoire est complètement
dérivée. Donc c'est féminin.
Voilà. Donc c'est la dictature du profit uniquement parce que l'État lui va s'occuper du collectif. Donc c'est le masculin, l'État symboliquement. Et la banque, effectivement, comme l'a très très bien résumé Brigitte et je le remercie, c'est le féminin.
Ça prouve que je vous ai bien lu.
Ah mais merci vraiment de tout cœur. Je n'aurais même pas été capable de synthétiser aussi.
Ne soyez pas aussi modeste.
Et donc il y a un grand déséquilibre parce que c'est la dictature du féminin. C'est-à-dire qu'il y a une dictature du masculin en apparence, mais en souterrain, c'est une dictature du féminin et le masculin, on lui a coupé les couilles, pardon, de dire ça aussi brutalement.
Il y a beaucoup d'hommes de père qui nous écoutent actuellement et qui ont, pareil, on leur coupe les couilles, c'est-à-dire qu'on leur retire leurs gosses, etc.
Mais c'est vrai aussi au plus haut niveau de l'État.
Voilà, donc il faudrait peut-être que les féministes se rendent compte qu'il est temps de lutter contre cette sorte de vouloir absolument se venger du patriarcat. On n'en sortira pas sinon et on continuera à rester dans la guerre des sexes. Donc voilà, enfin, si vous avez envie de mieux comprendre, ça c'est dans ce livre, hein, Masculin-Féminin, la grande réconciliation. On continue avec Laure. Bonjour Laure.
Bonjour Brigitte, bonjour Valérie.
Bonjour Laure.
Je suis assez émue, donc n'hésitez pas à me poser des questions ou à me couper si je suis confuse.
Mais non, on va vous aider à être clair, mais on va pas vous couper, Laure.
Donc c'est compliqué de passer après un thème aussi global avec ma question un peu triviale, mais ça doit être une question.
Alors dire que c'est trivial, ça veut dire que vous dévalorisez le féminin, parce que j'imagine que c'est une question personnelle et ça a autant d'importance que les problèmes collectifs. Je vous écoute. Oui. Nous vous écoutons.
Donc j'ai 28 ans, ça fait quelques années que je suis toute seule et que je fais un travail aussi sur moi pour essayer d'avoir des relations plus claires et harmonieuses avec les gens en général et avec les hommes en particulier. Et donc vous parliez de risque et donc j'ai essayé de prendre un risque avec quelqu'un qui n'est pas dans un idéal, enfin ou dans mon idéal masculin. Et donc on est passé du statut ami à une relation plus intime et malheureusement aujourd'hui j'ai pas de voilà, il me rappelle pas ou
S'il ne vous rappelle pas, c'est qu'il a pas envie de vous revoir. Je crois qu'il faut pas se leurrer. Et je crois qu'il est temps maintenant de faire tomber cet idéal, parce que vous m'avez parlé de qu'il ne répondait pas à cet idéal masculin. Là, vous êtes encore dans l'illusion que peut-être il va vous rappeler, alors que visiblement il ne vous rappelle pas. Il faut cesser de rêver. Mmh. Il faut que vous preniez un peu plus confiance en vous, et je crois que Valérie Collin-Simard l'a bien repéré, que vous étiez en train de vous dévaloriser. Il faut que vous appreniez à prendre confiance en vous. Moi, je vous conseillerais de participer à des choses collectives, où vous serez obligé un petit peu de sortir de votre timidité ou de votre manque de confiance en vous.
Mais je fais beaucoup de choses en fait à part mon boulot quoi. Je monte aussi beaucoup à cheval, donc ça m'apporte beaucoup sur un point de vue relationnel, enfin, parce qu'on est quand même face à quelqu'un.
Et à cheval, est-ce que vous savez vous imposer?
Ah, c'est terrible. Non, j'apprends. Mais
vous
oui,
savez
je monte
pas trop.
Confiance de moi.
Oui,
ouais.
Voyez. Donc apprenez à prendre confiance en vous. Le cheval, c'est un très très bon exemple. Je suis moi-même cavalière, comme vous le savez sans doute. Si à cheval, on ne s'impose pas, on ne peut pas être une bonne cavalière.
Mais comment on gagne?
Et avec un homme, quelque part, c'est un petit peu pareil, parce qu'avec un cheval, il faut pas s'imposer en lui arrachant la tête et en les prenant. Il faut y aller aussi en douceur, mais fermeté. Mais avec les hommes, c'est exactement pareil.
Mais comment on gagne?
Une main de fer dans un gant de velours. Avec les hommes, c'est pareil. Comment on fait? En essayant des tout petits trucs et puis hop, on se rend compte que ça marche et puis tout doucement, ça devient une seconde nature.
Et ça demande aussi beaucoup ce dont Brigitte parlait au début de l'émission, de clarté. Et de cohérence, de pas avoir des informations contradictoires. Je vais aller à droite ou je vais aller à gauche. Je connais rien au cheval, j'en ai le peu que j'ai pratiqué, j'ai retenu ça. Et donc je pense que ça, la relation au cheval est très semblable parfois à la relation à l'autre et à l'homme en particulier. Et donc peut-être en prenant conscience avec votre professeur de cheval des problèmes qui se posent, ça peut vous renvoyer en miroir ce que vous pouvez améliorer dans votre relation à l'homme également.
Demandez pour l'instant.
C'est mon professeur des hommes, je le trouve.
Mais c'est le même sujet. C'est le même sujet.
C'est la même chose. C'est le même fonctionnement. Demandez pour l'instant à votre moniteur d'avoir un cheval relativement facile où vous pourrez vous imposer.
Mais je tombe quand même.
Ah bah oui, mais alors vous êtes maso.
Mais accueillez votre peur. Accueillez. N'essayez pas de court-circuiter toutes vos émotions, parce que je peux imaginer qu'en fait vous essayez de ne pas avoir d'émotions. Donc là, vous nous avez dit au début que vous étiez ému, et c'est très bien. Du coup, on a eu envie de venir vers vous et de vous tendre la main, et c'est parfait. C'est une grande puissance, votre vulnérabilité. Donc accueillez-la. N'ayez pas peur de connecter vos émotions, pas forcément toujours de les exprimer, parce qu'il faut le faire dans un cadre sécurisé. Mais par exemple, je peux imaginer que cet homme, par exemple, qui ne vous rappelle pas, ben vous pouvez être à la fois très triste et en colère. Ben je vous invite à lui écrire une lettre. Et à lui écrire une lettre où vous lui dites toute votre colère et toute votre tristesse et vous la brûlez. Donc le fait de la brûler, c'est que du coup vous allez pouvoir vous lâcher, et vraiment, et si vous avez envie de l'insulter, ne vous privez pas, mais simplement ensuite vous brûlez cette lettre, vous la lisez une dernière fois, une bougie par exemple, ou avant, vous la lisez à haute voix avant de la brûler, et vous la brûlez, et ça va vous permettre de dégager un petit peu du trop-plein émotionnel et peut-être de libérer un champ énergétique avec cet homme un petit peu, avec un peu plus de clarté.
D'accord.
Et le soir, avant de vous coucher, visualisez-vous en train de monter à cheval avec un peu plus d'autorité.
Super.
D'accord.
Avant de monter un homme avec un peu plus d'autorité.
Non, un homme, vous laissez monter, ce sera plus facile.
Ouais, j'essaye. Merci beaucoup.
Vous avez pris le courage de nous appeler, et c'est déjà une belle réussite sur vous-même.
Mais c'est ça aussi, j'ai pris le courage de franchir le pas avec lui. Et c'est terrible, quoi, parce que bah, ça marche pas, quoi.
Mais si, ça a marché, puisque oui, c'est passé quand même quelque chose.
Ouais, mais...
Bon, c'est parce que vous en attendiez trop. Vous vouliez tout de suite une grande histoire d'amour et qui est devenir sa princesse.
Non, mais je comprends Laure, parce qu'elle a perdu à la fois un ami et un amant. Et elle se sent dévalorisée, elle se sent rejetée. Donc je vous comprends, Laure. Vraiment, je comprends votre tristesse. Accueillez votre tristesse. Écrivez cette lettre, ça va vous permettre de passer à autre chose. Parce que tant que vous allez rester accroché, comme le disait Brigitte, à attendre cet appel, vous pourrez pas passer à autre chose.
Et quand je le reverrai?
Eh ben, si vous écrivez cette lettre, et si vous avez pu exprimer à cette lettre et à toutes vos émotions, vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile de le revoir. Et de vous sentir, si vous vous sentez libre intérieurement, c'est lui qui va vous courir après. Mais simplement, ne le faites pas ça pour qu'il vous court après, parce que ça serait une illusion. Mais c'est ce qui se passerait si vous arriviez à vous libérer de ces émotions.
Merci. Merci Laure.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Et puis nous avons les résultats de notre vote. Alors, est-ce qu'ils se disputent souvent, nos auditeurs?
Eh bien, à la question, vous disputez-vous presque tous les jours? J'avais dit ça au début. Ben, il y en a quand même 26% sur rmc.fr qui se disputent presque tous les jours, ce qui me paraît énorme.
Quelle énergie gâchée. Et donc, il y en aurait...
Bon, il y en a quand même 74% restent rares dans leurs disputes, heureusement.
Mais quand on se dispute très, très, très souvent, au fond, c'est qu'on se dispute avec soi-même, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez, Valérie Colin-Simard?
Oui, c'est vrai. Et c'est aussi, en fait, la dispute, c'est une manière d'entrer en contact avec l'autre. Donc, oui. C'est des personnes qui s'aiment.
C'est une mauvaise manière.
Et ouais, oui, bien sûr, c'est au négatif, c'est de l'amour qu'on ne sait pas exprimer. Donc, au lieu d'exprimer de l'amour, eh ben, on exprime...
On se rentre dedans.
En fait, des reproches, c'est aussi vouloir être plus proche. Donc les disputes, c'est souvent et alors le canal de la colère et le canal du sexe, de la sexualité, le même.
Donc, c'est de l'agressivité, bien sûr.
Et oui, agresserer, ça veut dire aller vers. Donc, si on se coupe de sa colère, et si on n'exprime pas sa colère, du coup, on se coupe de sa sexualité, ce qui serait dommage. Donc, moi, j'encourage les couples, s'ils ne peuvent pas faire autrement, à se disputer, puis que ça se termine un petit peu par la réconciliation, ensuite.
Sur l'oreiller. Sur l'oreiller. Évidemment. Merci, Valérie Colin-Simard. Ça s'appelle Masculin-Féminin, la grande réconciliation. C'est des éditions Albin Michel. Et on va maintenant, parler de passion amoureuse, avec Cécilia Duterre, qui sera avec nous dans un instant. Si vous aussi vous avez envie de réagir sur la passion amoureuse, vous pouvez nous appeler au 3216. À tout de suite.
RLC, Laëlle, amour et vous, Brigitte Laëlle.
Cécilia Duterre est avec nous. Vous êtes écrivain, vient de sortir donc aux éditions Albin Michel Savannah Dream, mais vous avez reçu un prix pour votre premier, d'ailleurs je sais pas si c'était votre premier roman, L'âme de fond. Vous avez reçu le prix ou le monde de la Fondation de France, et vous pourriez avoir un prix pour celui-là aussi, Savannah Dream, parce que c'est vraiment intéressant, sensuel, passionnant. Vous racontez donc l'histoire d'un homme a priori plutôt bien, fidèle, tout, qui va tout doucement tomber dans une passion amoureuse. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous. Oui, c'est un homme, il s'appelle Julien, il a une quarantaine d'années, il est écologiste convaincu, il est chercheur au CNRS et il est démarché par la société Coca-Cola à Atlanta. Et attiré par le prestige de ce poste, par le salaire aussi, il va faire un très grand écart par rapport à ses valeurs, parce que Coca-Cola et l'écologie, je suis pas sûre que ça fasse très bon ménage, mais il y va, et il part donc à Atlanta en éclaireur, hein, laissant effectivement sa femme et ses enfants un mois, le temps de s'installer en fait là-bas. Et oui, vous l'avez dit, c'est quelqu'un de plutôt heureux dans son mariage, en tout cas dans une vie très confortable, une vie conjugale assez lisse, un bonheur bourgeois, on va dire, mais
tranquille
mais dans lequel il s'est construit. Il est reconnaissant à sa femme d'être arrivé à cette construction aussi grâce à elle. Il a eu une enfance très tourmentée, tout ça on l'apprend au long du roman, mais effectivement il en est là de sa vie et il part cherchant aussi déjà quelque chose de nouveau dans sa vie, puisqu'il on sent déjà que le personnage ressent une forme d'ennui, et il arrive là-bas et dans ce laps de temps où il cherche à emménager et commence à emménager, il y a une réunion à l'ambassade pour les nouveaux arrivants français à Atlanta, et là il croise le regard d'une femme qui s'appelle Maude et qui est prof de philo au lycée français d'Atlanta, et il tombe complètement sous son charme, et voilà, et va s'en suivre une passion
qui démarre doucement d'ailleurs.
Qui démarre très doucement.
On voit bien. Je vais faire attention de pas trop révéler l'intrigue, parce que c'est dans ça que le roman est intéressant, parce qu'au fond c'est pas simplement une histoire d'une passion. Il y a une intrigue, les personnages, et c'est peut-être d'ailleurs ça votre talent. Les personnages sont construits. On voit bien chez cet homme Julien, qui a priori est un homme fidèle, honnête, on voit bien sa part d'ombre qui tout d'un coup à cause d'une passion
révèle. Qui a une très grande insécurité en lui.
Exactement.
Et cette femme qui va s'avérer très vénéneuse et infiniment.
Alors, si vous le voulez bien, on va essayer, tout en parlant bien sûr de votre roman, de parler d'un peu plus de manière générale, pour que ça aide aussi certains auditeurs à mieux comprendre.
Bien sûr.
Et je trouve que justement ce qui est intéressant dans votre livre, c'est qu'on voit que cet homme, cette part d'ombre, c'est ça qui va faire qu'il va devenir infidèle, et que souvent au fond l'infidélité elle se décline parce qu'on a des choses en soi qu'on n'a pas réglées.
Oui, vous avez raison, et aussi peut-être que cette part d'ombre elle est nourrie justement par cette insécurité qu'il a en lui et qui va réapparaître. Et cette femme qui est très, très intelligente, elle va voir tout de suite chez lui comment le valoriser par son regard d'abord, et pour mieux pouvoir entrer dans ses failles. Et c'est exactement les ressorts de l'emprise amoureuse, c'est ça qui m'a intéressée, là on revient dans le général, mais c'est ça qui m'a vraiment intéressée à creuser dans ce roman, c'est quels sont les ressorts de l'emprise, alors en général, mais là c'est l'emprise amoureuse qui m'intéresse, comment elle va faire. Donc elle va tisser toute une manipulation en fait autour de lui, toute une toile. On va découvrir en plus que cette toile et la manipulation est bien plus large qu'une manipulation amoureuse, mais ça moi je ne dévoilerai pas.
Moi non plus,
parce que c'est un thriller psychologique aussi.
La surprise à celui qui va vous lire, bien sûr, c'est Cécilia Duterre.
Mais
alors comment vous construisez votre roman? Est-ce que vous avez dès le départ un petit peu dessiné justement cette toile d'araignée, ou est-ce que ça vient au fil de l'écriture?
Alors là j'avais pour ce roman là, parce que c'est à chaque fois un petit peu différent, mais là j'avais vraiment l'histoire assez construite. Je savais où je voulais arriver, et aussi à mon petit CQFD, si j'ose dire, d'auteur, puisque la fin, je pense qu'elle est assez surprenante et que peut-être qu'elle ferme une boucle, de réflexion justement sur les deux plans en fait de l'amour. C'est un peu ça que je mets aussi en relation. C'est cet amour élan qu'il ressent pour cette femme, qui est un élan qui est du désir en fait, vraiment un élan irrépressible finalement, et en même temps le mettre en relation avec l'amour construction, l'amour durable. durée, l'amour conjugal. Donc, voilà. Et constamment, cet homme va être en tension entre ces deux types d'amour, parce que pour autant, les choses ne sont pas simples. Il continue à aimer sa femme et il est sous vraiment la domination de cette femme qui va venir l'obséder et occuper quelque chose de l'ordre du vide existentiel, tout simplement. Elle arrive pour... Il va penser qu'elle va pouvoir combler ce vide, alors qu'au contraire, elle va venir le creuser.
Alors, il y a évidemment beaucoup d'échanges de textos entre eux. Ça fait vraiment partie maintenant de la vie des amoureux, finalement, hein, les échanges
oui,
de textos. Et en même temps, on voit bien que c'est aussi dangereux. On va pas révéler l'histoire, bien sûr, mais...
Alors, il y a ces échanges de textos ou de mails. Il y a aussi les silences, quand on ne répond pas. Donc, ça laisse l'autre dans cette espèce, justement, de vide. Et ça aussi, ça m'a intéressée, parce que le texto, bon, on dit des choses par texto, mais on peut aussi dire des choses par le silence. C'est-à-dire que parfois, dans ce jeu de... Finalement, leur jeu amoureux est un combat, parce qu'elle instaure des relations extrêmement conflictuelles entre eux. Et les silences aussi sont très importants, parce que quand elle ne répond pas, ça le met dans un vide abyssal. Et finalement, c'est pour mieux renouer après. C'est un cercle vicieux, en fait.
Oui, elle tisse vraiment sa toile.
Oui, complètement.
Et on voit bien qu'il voit rien, quoi. En plus, à un moment donné, encore une fois, on ne va pas révéler, mais il se rend compte qu'elle a peut-être un autre homme dans sa vie, parce qu'il a été fouillé sur son portable, comme ce que j'entends tous les jours, d'ailleurs.
Hein. Oui, oui. Oui, parce que là, en plus, dans cette passion amoureuse, bien sûr, la jalousie vient envenimer tout ça à double titre.
Il est marié, mais ça c'est normal, mais oui. Ça le dérange de penser qu'elle
puisse avoir un autre homme, effectivement, à côté. Et elle lui renvoie aussi l'idée que lui-même n'est pas libre. Donc, finalement, il y a tout ce jeu qui s'instaure. Et aussi, il va découvrir, vous parliez tout à l'heure de la part d'ombre, qu'en effet, il a une part d'ombre. Elle le lui révèle, en fait, cette femme-là. Alors que dans l'amour solaire, normalement dans l'amour construction, l'autre est quand même là pour exalter le meilleur de vous-même. Elle va exalter le moins bon, puisqu'il va découvrir aussi une forme de petite jouissance, finalement, à lui faire du mal aussi en retour, et va s'instaurer ce roulement, en fait, de bourreau victime dans un enroulement qui va être dévastateur pour cet homme, et en même temps, et je ne dévoilerai pas la fin, mais en même temps de s'être confronté à cette partie sombre de lui-même, peut-être qu'il sera aussi plus libre pour l'avenir, et peut-être qu'il en sort certainement pas grandi de cette histoire, mais grandi sur le plan humain d'une vie, je veux dire.
C'est aussi le miracle de l'amour et de la passion. Hein.
Bien sûr.
Ça nous révèle sur nous-mêmes des tas de choses qu'on ne. Il y a peu de domaines où on peut être aussi vite révélé à soi-même que la passion.
Bien sûr, vous avez raison. Bien sûr, c'est un des.
Vous dites un moment, c'est un de vos héros, bien sûr, qui dit dans un couple, il y en a toujours un des deux qui aime plus que l'autre. On croit que c'est celui-là qui souffre, mais c'est le partenaire le moins aimant qui est à plaindre. Vous croyez vraiment que c'est vrai, ça?
Sans doute, en tout cas, c'est le plus frustré des deux, parce que il n'a pas cette capacité d'accueillir peut-être tout le don que l'autre pourrait lui donner. Oui, c'est triste de ne pas aimer à la mesure de ce qu'on est aimé, je trouve.
Vous pensez que c'est mieux d'être...
L'idéal serait d'aimer autant.
Est-ce que justement on peut aimer autant? Est-ce que c'est...
Alors dans le cas d'une...
Comment on mesure au fond?
Oui, comme c'est immesurable, vous avez tout à fait raison. Mais dans le cas d'une relation durable, je crois que de toute façon, il y en a toujours un qui est un peu à la traîne. Et puis ça tourne aussi, les choses sont pas toujours... C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut... Il y a des moments où on aime plus que l'autre se lasse, mais on se rattrape. Et puis les choses changent. Alors que là, dans une relation très très courte, tout est intense, tout est extrême, tout est radical dans leur relation, donc il y a vraiment pas de notion de construction là, on est vraiment dans une immédiateté absolue.
Et les scènes sensuelles, sexuelles, Cécilia Duterre, vous les avez écrites par rapport à vous-même, par rapport à votre imaginaire?
Alors je me suis glissée dans la peau d'un homme, parce que c'est un homme qui parle.
Oui.
Donc ça, j'ai une grande jubilation personnelle. Le métier d'auteur permet d'être un autre. Et là, oui, effectivement, d'être un homme. Alors, je les ai décrits comme...
C'est quand même assez chaud, hein.
Oui, il y a des scènes, c'est l'histoire d'une passion. Donc, effectivement, il y a aussi des scènes, ça inclut évidemment des scènes un peu plus sensuelles, charnelles. Et j'essaie d'aborder ces scènes comme les aborderait un homme. J'espère que j'ai... Enfin, comme moi, j'imagine qu'un homme les aborderait. En tout cas, je ne les ai pas écrites peut-être sous un angle féminin, mais plus masculin, puisque là, mon héros, c'est lui qui raconte. Donc, je me suis glissée dans sa peau.
Alors, il y a une chose qu'on se pose comme question. Enfin, moi, je me suis posé en tout cas cette question. Et comment il fait l'amour avec sa femme, ce héros? Parce que on a évidemment beaucoup de scènes où ils font l'amour avec sa maîtresse. Donc, mais oui. Est-ce qu'il fait encore l'amour avec sa femme et comment?
Alors, il y a une ou deux scènes. Enfin, il y a une ou deux endroits, mais c'est vrai que je l'évoque uniquement. Où on sent que c'est pas bien, c'est simplement que c'est routinier, qu'il est dans une routine, dans un scénario qui est sans doute un peu répétitif à ses yeux et qu'il a envie d'autre chose. Mais je crois que c'est quelqu'un qui arrivait à un moment donné de sa vie a envie d'autre chose sur tous les plans. Il a envie d'autre chose sur le plan professionnel, de grandir en fait. Il dit je veux prendre la direction de l'ampleur. Donc l'ampleur, voilà. Sauf qu'il prend la direction de la fuite de lui-même à travers le regard social
D'après vous, Cécilia Duteur, c'est inévitable à un moment donné quand un couple est ensemble depuis longtemps et que l'un des deux s'ennuie qu'il y ait l'adultère?
Oh, je pense pas que ce soit inévitable, j'espère bien que non. Mais la tentation, je pense, existe bien sûr dans toute relation, et particulièrement quand la relation est sur la durée. Je pense qu'on peut pas exclure du tout l'idée d'avoir effectivement effleuré, en tout cas, l'idée de l'adultère. Après, est-ce qu'on passe à l'acte ou pas? Mais c'est inévitable. On ne peut pas être le seul objet de fantasme d'une personne toute une vie, je crois. Et d'ailleurs, c'est bien de fantasmer sur d'autres. Je ne sais pas si c'est bien de passer à l'acte, hein, ça c'est chacun juge, mais d'avoir éventuellement à un moment donné ou à un autre support de fantasme ne me paraît pas à moi répréhensible.
Et alors aujourd'hui, Cécilia Duteur, vous travaillez sur un prochain livre, j'imagine, ce serait quoi ?
Alors moi j'écris d'une façon générale autour de la thématique du désir, hein, depuis plusieurs ouvrages, et ce sera toujours autour de cette thématique, mais sur le plan romanesque, ce qui m'intéresse c'est... les questions d'identité, donc j'écoutais votre précédente invitée, féminin, masculin, ça m'intéresse infiniment. Donc voilà, ce sera plutôt dans cette veine-là. Et puis, je suis en train d'écrire un pamphlet plus humoristique sur la séduction.
Sur
la séduction.
Ah, oui.
Et je me rends compte qu'on peut dire des choses très sérieuses avec un peu d'humour et parfois un humour un peu grinçant aussi.
Par exemple, est-ce que vous pouvez nous en donner une petite...
Non, mais des approches... voilà, des choses que je vois et que je mets...
Justement, puisqu'on parle du masculin et du féminin, est-ce que les femmes aujourd'hui peuvent aller séduire les hommes? Il faut toujours laisser l'homme aller séduire?
Oh ben non, moi je crois qu'on peut de deux côtés, bien sûr. Moi personnellement, je préfère être séduite que séduire, mais parce que je pense que j'ai un tempérament un peu timoré sur la question. Mais
vous êtes une vraie femme, tout simplement.
Oui, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime qu'on vienne me chercher. Mais après, il y a des conquérantes et c'est très bien. Et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui adorent ça.
Daniel est avec nous. Il a une question à vous poser. Bonjour Daniel.
Oui, bonjour. Bonjour à votre invité. Moi, je voulais lui poser une question. Je voulais savoir si ce qu'elle pensait du fait que lorsqu'on est séduit et qu'on tombe amoureux, comment peut-on, même si la personne est manipulatrice, se laisser berner malgré les précautions et les conseils de ses proches qui voient en fait ce manège-là? Qu'est-ce qui fait qu'on peut être à un tel point manipulé? Est-ce que c'est le fait que l'amour rend complètement aveugle ou voilà? Je voulais savoir ce que votre invité pensait de cela.
Ah ben parce que je pense que déjà le manipulateur ou la manipulatrice est très intelligente, c'est très brillante et très, là en l'occurrence je reviens à mon personnage, mais on peut faire une généralité du manipulateur. Le caractère, c'est, il est souvent très charismatique, donc on est vraiment sous son charme. Et puis par ailleurs, je pense qu'il a l'intelligence, encore une fois, de voir très très vite à qui il a affaire, de venir, c'est souvent quand quand même, il choisit aussi sa proie, hein. Le manipulateur, le pervers narcissique ou la perverse narcissique, elle choisit sa proie et elle va pas n'importe où. Elle sait très bien donc qui elle a affaire. Elle va rentrer en fait en vous, mais d'abord, je pense, la première phase de séduction, en vous valorisant, hein, là où sans doute beaucoup d'entre nous avons besoin d'être valorisés. Donc ce regard va venir nous envelopper et puis pour mieux ensuite entrer en nous et venir creuser toutes les failles qu'il a, que le manipulateur sent et sait magnifiquement creuser pour tisser vraiment une toile autour de la personne de son choix et venir aspirer vraiment son suc, quoi. C'est cette idée de vampirisation, hein, et puis nous amener aussi cette proie qui se rebelle, hein, de temps en temps à entrer dans ce jeu pervers et dans cet amour, si on peut appeler ça amour, qui ne serait plus qu'un combat.
Est-ce que, alors,
oui, Daniel, je vous en prie.
Ma question, est-ce que vous pensez pas que ces pervers et manipulateurs sont quelque part des maniaques?
Des maniaques? Pourquoi des maniaques?
Je dirais maniaques par la perversité dont ils font preuve dans la conduite de leur du cheminement qu'ils ont pour manipuler l'autre, on va dire l'être aimé.
Ben, j'ai l'impression que ni l'une ni l'autre, on comprend très très bien le sens de votre question, Daniel, excusez-moi.
C'est-à-dire, est-ce que la perversité est telle qu'on peut dire que ce sont des maniaques?
Ben, de toute façon, la perversité, c'est la perversité. C'est pas. Je crois que on se comprend pas sur le mot maniaque, me semble-t-il.
Ben, en gros, c'est. Est-ce que
ils ont pas le choix, vous voulez dire, c'est
non,
ça?
Non, non, non. Ce que je veux dire, c'est que ils ont une telle perversité à manipuler que quand je dis maniaque, c'est plus le mot addict. Ils deviennent addicts au jeu qu'ils ont de manipuler les autres.
Ah oui, certainement, ça devient un mode de fonctionnement. Peut-être qu'ils en sont pas. Je pense qu'ils en sont conscients pour partie. Et puis après, c'est leur mode de fonctionnement dans la relation amoureuse. Mais je pense que c'est dans la relation en général. Hein, ça peut être dans la relation professionnelle. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de creuser l'aspect d'emprise amoureuse. Mais je pense que les ressorts de l'emprise, de toute façon, qu'elles soient, par exemple, sectaires, parce que souvent, ce sont des gens aussi qui peuvent très bien devenir des gourous. Voilà, ce sont des personnalités très particulières. Mais je crois que...
Mais en même temps, votre héroïne, on peut pas considérer non plus que c'est une vraie perverse au sens où on pourrait l'entendre.
Non, parce qu'on voit effectivement qu'elle a des failles elle-même, et absolument. Je pense que les failles de l'un et les failles de l'autre, dans cette rencontre, vont venir s'emboîter. Hein,
ça s'enflamme, et c'est pour ça que c'est une vraie passion. Merci Daniel, merci Cécilia Duterte. Ça
merci
s'appelle Savannah Dream, c'est aux éditions Albin Michel.
Merci beaucoup.
On se retrouve dans un instant avec le Love Conseil du jour. Vous pouvez continuez bien sûr à réagir au 32-16. À tout de suite.
RMC, Brigitte Lahaye, l'amour et vous.
Et nous allons du côté d'RMC.fr avec ce mail de Valérie qui nous dit « Mon mari depuis 12 ans, avec qui nous avons eu des enfants, vient de me dire qu'il voulait divorcer. Le connaissant parfaitement et après avoir discuté longuement avec lui, je sais qu'il n'a pas de maîtresse, en tout cas personne en vue. Il me dit qu'il n'a plus la flamme, qu'il n'a plus de bonheur avec moi et qu'il est mal dans sa vie. En même temps, il me dit qu'il me trouve toujours belle et désirable. Il n'a jamais été coureur de jupons, mais il aspire à une liberté. Lui-même ne sait d'ailleurs pas laquelle. Voilà, j'ai essayé de lui proposer un thérapeute, mais il m'a dit que ça ne servait à rien. Il campe sur ses positions et m'a dit qu'il n'y aurait pas de retour possible. Nous étions jusqu'à présent amoureux, épanouis, même sexuellement, nous avions des projets. Je suis toujours folle amoureuse de lui et je ne comprends pas ce qui se passe. Est-ce que vous pourriez m'aider? Alors, je pense, Valérie, que vous ne comprenez pas ce qui se passe, mais je suis pas sûre que lui-même comprenne ce qui se passe. Vous avez affaire à quelqu'un qui s'est durci dans ses positions et vous vous retrouvez face à un mur et plus vous allez essayer de le faire changer, de le faire bouger, plus il va se camper sur ses positions. Donc l'attitude à avoir, c'est surtout pas d'essayer de retrouver une réconciliation ou une avancée commune. Je crois qu'il faut le laisser dans cette sorte de mutisme qui est certes très très difficile pour vous et qui au fond montre bien que il est un peu perdu. Et je pense que vous savez, parfois on est dans un mal-être et on a l'impression que la seule solution qu'il nous reste, reste, c'est de fuir. Et c'est un petit peu ce qu'il a choisi. En fait, je ne dirais pas qu'il vous quitte, je dirais qu'il fuit une situation qui, quelque part, ne lui convient plus, mais il ne sait pas pourquoi ça ne lui convient plus. En revanche, si vous commencez à bouger pour vous, alors là, peut-être que ça pourra faire bouger la relation. Mais surtout, ne rentrez pas de front, ça ne servira à rien.
RMC, Brigitte Lahaye, Love Conseil.
Alors, dormir ensemble, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Il y a les 100% pour, il y a les 100% contre. Je crois qu'il faut un petit peu nuancer tout ça. Je pense qu'il est important d'abord d'être sûr, d'être sur la même longueur d'onde, que l'on dorme ensemble ou qu'on ne dorme pas ensemble. Ça fait partie des sujets qui doivent absolument être abordés dans un couple. Alors, je sais bien qu'il y a les contingences matérielles. Parfois, on vit tous les deux dans un petit appartement et on n'a pas le choix, on est obligé de dormir ensemble, hein. Mais si on a le choix, ben, il faut que le sujet soit mis sur l'oreiller, si je puis dire, parce qu'il y a quand même quelques obstacles au dodo collé, notamment lorsque l'un des deux ronfle ou a de profondes insomnies, ou voire lorsque l'un des deux a toujours trop chaud et l'autre toujours trop froid. Et il est évident que s'il y en a un qui adore avoir trois couvertures sur les jambes alors que l'autre ne préfère avoir juste un drap, ça pose des difficultés. On peut toute la nuit se disputer à tirer ou retirer la couette. Donc il y a aussi, quand on n'a pas les mêmes besoins de sommeil, c'est pas forcément facile non plus, parce que c'est pas facile de dormir quand quelqu'un a besoin de lire jusqu'à 2h du matin. C'est pas facile de rester à dormir lorsque l'un se lève à 5h du matin. Voilà. Donc je crois que tout ça peut se discuter, parce que il faut quand même se rappeler que dormir, ça a un bienfait certain sur l'organisme, et que les conflits de la chambre à coucher peuvent finalement avoir des répercussions sur votre libido. Parce que si vous attendez d'être au lit pour soi-disant dormir, pour pouvoir faire l'amour, bah, c'est que quand même, quelque part, votre sexualité, elle n'est pas non plus très très bien évoquée, et vous ne communiquez pas très bien sur ce sujet. Donc dormir, oui, et dormir ensemble, c'est pourquoi pas, c'est formidable quand ça va bien, mais dormir séparé, ça peut aussi être génial. Et à ce moment-là, bah, on se retrouve quand on a envie de se retrouver. Voilà, alors dernier petit détail, je rappelle toujours qu'il vaut mieux mettre la tête du lit au nord, ensuite à l'est. Il faut éviter l'ouest, et surtout la tête du lit au sud, parce que c'est nuisible pour notre équilibre énergétique. Ça, c'était un petit peu de feng shui, mais c'est important aussi de temps en temps de donner des conseils pratiques. Notre pin-up, écoutez, elle continue, hein, c'est un festival de lingerie, et aujourd'hui c'est tout en rouge qu'elle se présente, et franchement, joli ensemble rouge. Je suis sûre que ça devrait vous plaire. Allez, bien sûr, sur notre blog, vous pouvez aller à la voir, et c'est Mylène qui est cette semaine avec nous. Julien, bonjour.
Oui, bonjour. Oui.
Bonjour Julien. Vous avez essayé un plan à trois.
Oui, moi j'ai fait du sexe chui.
Oui, oui, oh, c'est joli.
Voilà, et je suis revenu 5 000 ans en arrière. Non, parce que j'ai écouté l'émission que là vous avez eue avec Valérie.
Oui.
Sur ces fameuses oppositions hommes-femmes. Alors moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une expérience à trois avec un couple dans un club. Mm-hmm. Donc deux hommes et puis une femme, mari et sa femme. Et donc j'ai eu un rapport bisexuel avec le mari. Et j'ai trouvé ça super. Donc j'ai chassé en quelque sorte quelques vieux a priori sur l'homosexualité, parce que je ne me sens pas du tout comme ça, et c'est quand même un sujet dont tout le monde parle en ce moment.
Oui, oui, mais encore une fois, voilà. Vous avez, si j'ai bien entendu, donc vous avez une relation sexuelle avec l'homme aussi. Je sais pas si c'est vous qui l'avez pris ou lui qui vous a pris, qu'importe.
Il y avait ni de rapport passif ni actif. C'était, on était simplement aux fellations, et c'était, ma foi, très bien. J'ai pas trouvé de différence, franchement, entre un homme et une femme. Et c'est pas pour autant.
D'accord. Donc c'est lui qui vous a fait une fellation.
Et moi aussi.
Et vous aussi, d'accord.
C'était réciproque, et sa femme nous a regardé. C'était génial, quoi.
Oui, ben vous avez découvert qu'on pouvait être hétéro et puis de temps en temps s'amuser avec sa face,
face. Je suis pas émasculé pour autant. Et
il vous l'a pas coupé en vous faisant une fellation,
non,
tout va bien.
Non, pas du tout. J'ai pas perdu ma virilité non plus. Hein. Mais c'est vrai que j'avais un a priori qui pouvait être compréhensif puisqu'on est un petit peu éduqué pour être hétéro, quoi. Mais je suis pas au mot de cœur, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Vous en aviez parlé dans une précédente émission, je crois que c'était la semaine dernière, ou il y a 15 jours, où on pouvait très bien s'éclater et trouver des 5 friends aussi bien masculins que féminins, sans pour autant tomber 100% homo, et loin de là, loin s'en fout, quoi.
Oui, mais écoutez, moi ce que je trouve bien dans votre témoignage, c'est qu'au fond vous avez fait quelque chose que vous n'auriez pas imaginé faire et que ça vous a pas visiblement perturbé.
Non, et puis rien de sale, et puis avec cet homme, il n'y avait pas ce côté un peu viril et brut qu'on peut retrouver chez certains, et ça rejoint un petit peu le côté féminin que les hommes retrouvent petit à petit. En fait, c'était super sensuel, quoi. C'est-à-dire, il n'y avait pas d'opposition, ça s'est fait naturellement, si je puis dire. Et sans forcément poser la question, mais on sait s'en faire, et ça a été vraiment un délice, quoi. Et donc moi je suis prêt à recommencer.
Écoutez, il y a longtemps qu'on sait que les hommes aussi peuvent sucer des glaces, hein.
Oui, bah de toute façon, il fut un temps où les saunages, jadis au temps des Romains, étaient simplement réservés aux hommes, et on imaginait certaines choses qu'ils pouvaient faire. Hein. Et à l'époque, quand il n'y avait pas forcément cette hétérosexualité un petit peu imposée, je parle de ça il y a quand même milliers d'années, hein, la sexualité était aussi bien masculine que féminine. D'ailleurs,
bon,
les animaux.
Mais attendez, parce que le terme hétérosexualité imposée, n'exagérons rien quand même. Hein.
Oui,
faut pas tomber non plus dans le sens inverse. Hein.
Oui, mais on est tout de même au départ, hein, pour la majorité d'entre nous, hétéro quand même. Donc, mais la nature en elle-même ne distingue pas l'homosexualité de l'hétérosexualité. Et je pense que je suis bien naturel à ce propos-là.
Merci Julien de votre témoignage, en tout cas. Merci beaucoup.
Et puis on va conclure. Avec plaisir, puisque si je ne veux pas faire avancer d'autres, ben qu'il y aille.
Qu'il y aille, absolument. Merci. Et Samy est avec nous pour conclure. Bonjour Samy.
Bonjour.
Bonjour, vous avez...
Bonjour Brigitte et bonjour à votre invité.
Vous avez 27 ans, vous êtes en train de vivre une histoire, une véritable passion. C'est ça?
Tout à fait, ouais. Donc ça fait 8 mois en fait que je suis avec ma copine. Et c'est vrai que j'ai pas mal bourlingué dans le sens où j'ai eu beaucoup de relations. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai eu à peu près 25 copines dans ma vie. Et c'est vrai que j'ai eu une passion avant elle, et c'est vrai que ça s'est très mal fini. Et je suis sorti avec un certain nombre de filles en me disant que c'était fini, quoi, que je retomberais plus jamais amoureux vraiment. Et du coup, j'ai enchaîné les relations de 2 mois, entre guillemets. Mmh. Et c'est vrai que là, ça a été le déclic quand je l'ai rencontré. Et puis là, on va emménager ensemble d'ici un mois, quoi. Donc, je suis super content.
C'est plus qu'une passion, là. C'est peut-être une grande histoire d'amour qui démarre. Parce que quand on dit, enfin, parce que la passion, c'est quelque chose de très très fort, mais qui n'aboutit pas forcément sur un engagement.
Tout à fait. Donc là, c'est vrai que là, on a décidé de se mettre en appartement ensemble. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'on a tous les deux, entre guillemets, des failles. Moi, j'ai mes failles par rapport au fait que, j'ai eu beaucoup de relations. Donc, c'est vrai que c'était difficile au début. Moi-même, j'y croyais pas. Et ce qui s'est passé de son côté, c'est que, voilà, il y a eu beaucoup de mauvaises expériences aussi, des personnes qui l'ont trompé, mauvaises expériences, etc. Et c'est vrai que, du coup, elle a eu du mal aussi à faire confiance. Et c'est un petit peu comme une thérapie collective, du coup. Donc, c'est vrai que c'est génial, quoi.
Et j'entends bien. Vous vous êtes entendu parce que, quelque part, vous aviez des points communs au niveau de vos blessures. Et ça, c'est vrai que ça fait souvent des histoires qui démarrent fort. Ce qu'il faut juste se méfier, c'est d'être vraiment, d'être vraiment sur la même longueur d'onde. Ne pas avoir envie de, on se répare, hein, bien sûr, dans ces histoires-là, et c'est très très bien. Mais il faut pas avoir envie d'être plus fort que l'autre, en quelque sorte.
Non, mais on n'a pas ce problème-là. Après, c'est vrai que pour rebondir sur ce que vous aviez dit tout à l'heure, nous, c'est vrai qu'on fait partie des 26%, parce que moi, je suis quelqu'un de passionné, et je pense qu'elle est pareille que moi, entre guillemets, et c'est vrai que des fois, ça clash un peu, mais c'est pas pour autant qu'on s'aime pas autant, et voilà. C'est au contraire, je pense que c'est bien qu'on se dise les choses, même si des fois, c'est vrai que ça fait mal. Mais bon, c'est...
Oui, mais voilà, je pense que, vous voyez, ça confirme un peu la crainte que j'avais en vous écoutant. Si vous vous disputez beaucoup, il faut peut-être apprendre à vous réconcilier, mais à vous réconcilier réconciliez-vous en tant qu'homme avec les femmes et elle en tant que femme avec les hommes? C'est-à-dire que quand vous vous disputez, c'est peut-être encore de par rapport à votre vos passifs.
Ouais, après c'est un peu des problèmes aussi d'amitié, dans le sens où moi j'ai ma meilleure amie, on est très très proches, et par exemple c'est un problème un petit peu dans notre relation, et je pense qu'elle a un peu peur parce que elle s'est persuadée que ma meilleure amie voulait être avec moi alors que ce n'est pas du tout le cas, et c'est en vain qu'on se connaît, et d'accord. C'est vrai que je pense que ça lui fait peur. Et ben, par rapport à ses mauvaises expériences, justement.
Oui, oui, mais voyez, c'est qu'il y a encore de la possessivité qui apparaît beaucoup trop dans votre histoire. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que vous pouvez élaborer ensemble pour que ça dure justement. Parce que les conflits qui se répètent trop souvent, ça finit parfois par user l'un ou l'autre. Merci Samy, et je vous souhaite en tout cas une belle histoire d'amour. Bonjour Christophe.
Bonjour Brigitte, bonjour à tous.
Et comme c'est jeudi, c'est le carré magique.
Exactement, Ali Benarbia, Olivier Dacour, Grégory Coupé sont avec Luis Fernandez pour trois grands débats. Le PSG a-t-il terni son image face à Evian hier soir? Monaco doit-il conserver ses privilèges? Jérémy Aliadière, l'avant-centre de Lorient, mérite-t-il l'équipe de France? On attend votre avis au 32-16 en deuxième mi-temps de Louis Attaque. Rennes laisse-t-il la France indifférente avant la finale de la Coupe de la Ligue face à Saint-Etienne? On posera la question à Romain Alessandrini, le petit prodige rennais. Alors je vous dis à tout de suite.
Merci Christophe, et demain nous serons en compagnie de Bruno Martin pour notre libre antenne.
RMC, La Haye, l'amour et vous.